Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les autorités de régulation de l'Union européenne ont ouvert ce lundi des enquêtes contre Apple, Google et Meta pour non-respect de la loi sur les marchés numériques.
Ça n'a pas traîné. Le 25 mars, la Commission européenne a lancé 5 procédures contre des géants d'Internet soupçonnés d'infraction aux règles européennes de la concurrence. Et ce, quelques jours à peine après l'entrée en vigueur du DMA, le règlement sur les marchés numériques dans l'Union. DMA, DSA, RGPD, l'Europe raffole des sigles, les GAFAM, un peu moins. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
Today, the Commission has fined Apple 1.84 billion euros for abusing its dominant position on the market for the distribution of music streaming apps.
C'était il y a un peu plus d'un mois, Margrét Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence, annonçant une amende de plus d'1,8 milliard contre Apple pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. Les amendes pleuvent comme à Gravelotte sur les GAFAM, comme un rappel de la météo bruxelloise.
Chez nous, en Belgique, il pleut tout le temps,
sauf quand il ne pleut pas.
Mais c'est parce qu'il a plu, ou bien qu'il va pleuvoir, ou bien c'est peut-être qu'on se trouve à l'étranger.
Bonjour Fabienne Schmitt.
Bonjour.
Correspondante des Échos à Bruxelles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce règlement européen sur les marchés numériques, plus connu sous le nom de DMA ?
Alors c'est la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du net. Ceux-ci sont devenus tellement énormes qu'ils ont acquis une puissance de marché qui est susceptible d'étouffer la concurrence et donc de nuire aux consommateurs. Et cette loi, elle définit les obligations pour ces entreprises. Elle exige par exemple qu'elles permettent aux développeurs d'applications de diriger les utilisateurs vers des produits en dehors de leur plateforme sans les faire payer pour ça. Ou encore pour celles comme Google qui offre des résultats de recherche classés. Elle exige de traiter de manière équitable et non discriminatoire tout service tiers, donc en dehors des propres services de Google.
C'est pas la seule réglementation mise en place par Bruxelles ces dernières années. Alors, il y a aussi le RGPD qu'on commence à bien connaître et le DSA. De quoi s'agit-il ?
Alors le RGPD, c'est le Règlement européen général de protection des données personnelles et de la vie privée qui impose des règles du jeu aux acteurs qui collectent les données et qui renforcent aussi les droits des citoyens européens. Et le DSA, c'est la loi européenne sur les services numériques qui vise, elle, à éliminer les contenus illégaux et préjudiciables en ligne et la propagation de la désinformation aussi. Et le DSA impose des contraintes aux plateformes en ligne comme les places de marché, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu comme X ou TikTok. Il est clair que ces 5 dernières années, l'Europe a approuvé un nombre très conséquent de nouvelles lois dans le domaine numérique. Il y a celle-ci, mais il y a aussi le programme politique de la décennie numérique, la loi sur la résilience cybernétique, une autre sur l'infrastructure gigabit ou encore sur l'intelligence artificielle.
Pourquoi cette vague de régulation sur Internet de la part de Bruxelles ?
Eh bien, j'ai envie de dire que ça répond à une vague d'attitudes abusives de la part des grands groupes technologiques qui ont été dénoncés par leurs concurrents. Il y a eu plusieurs plaintes, il y a eu des enquêtes, il y a eu des condamnations. Mais petit à petit, l'Europe s'est rendue compte qu'il lui fallait un dispositif qui lui permette d'agir en amont et non plus après coup. Je m'explique, jusqu'ici, les pratiques contestées des GAFAM n'étaient sanctionnées qu'après des années, après le dépôt d'une plainte, ce qui finalement leur laissait tout le temps de nuire gravement à la concurrence, sans compter que les amendes n'étaient pas toujours très dissuasives. Aujourd'hui, avec le DMA et le DSA, par exemple, ça permet de déclencher des enquêtes au premier ou presque soupçon d'une attitude potentiellement anticoncurrentielle d'un acteur. Et ces enquêtes peuvent être suivies de sanctions ou pas, mais en tout cas, agir en amont, c'est toujours plus efficace qu'après coup. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en Europe qu'on réglemente aussi fortement ces géants du numérique et que le monde entier regarde ça un peu comme un test de ce qui peut être fait pour contrôler la puissance de ces grands groupes technologiques.
Ouais, c'est vrai qu'elles sont très grosses, hein, ces entreprises. Elles sont sur de nombreux marchés et Bruxelles considère qu'elles sont finalement des portes d'entrée vers Internet, des gatekeepers. Justement, quelles sont les entreprises visées en priorité par ces règlements?
Alors, l'Europe ne cite pas de nom, bien sûr, hein, dans sa loi, mais elle définit des critères qui qualifient les entreprises qui rentrent dans le champ de la loi et aussi pour mesurer la taille à partir de laquelle certaines obligations spécifiques s'appliquent aux plus grandes entreprises, notamment. Et donc, pour celle-ci, spécifiquement, l'Europe a établi une liste et on retrouve les géants américains et chinois essentiellement, que sont Alphabet, la maison mère de Google, Apple, Amazon, ByteDance, la maison mère de TikTok, Meta, Microsoft, X. Il y a un Allemand, un Européen, Zalando, qui est touché par le DSA. Voilà. Et l'Europe a ouvert 3 enquêtes contre Apple, Google et Meta récemment, pour des pratiques contraires au DMA. Apple et Google sont soupçonnés de trop favoriser leur propre magasin d'applications. Et Meta, lui, est ciblé sur l'utilisation qu'il fait des données personnelles des internautes à des fins publicitaires. Et ça, c'est que le début de l'histoire des procédures européennes. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Par exemple, en ce moment, l'UE regarde de très près ce que fait Amazon dans la manière dont il présente les produits pour vérifier s'il le fait de manière équitable. Il n'y a pas d'enquête formelle qui est ouverte encore sur Amazon, mais ça pourrait arriver sous peu.
En tout cas, le message est clair, ces multinationales ne sont pas too big to care, trop grosses pour s'en soucier. C'est notamment ce que dit le commissaire européen Thierry Breton à la pointe sur ce sujet. Il veut faire régner l'ordre dans le Far West du numérique. Et si Bruxelles ne donne pas de nom, Thierry Breton ne s'en était pas privé en délivrant il y a un an sur son compte Twitter la liste de 19 grands groupes considérés comme des portes d'entrée à Internet.
J'évoque, je ne balance pas.
En attendant, le DMA est entré en vigueur le 7 mars et les premières enquêtes sont tombées dès le 25 mars. On n'est pas loin de l'excès de vitesse pour Bruxelles, Fabienne.
Le couperet est tombé très vite. Et d'ailleurs, tout le processus d'adoption des lois, lui aussi, a été fait très rapidement pour le temps bruxellois habituel, j'ai envie de dire. Et des juristes ici disent même peut-être que le législateur européen est allé un peu trop vite. Il faut voir si les textes sont suffisamment bétonnés ou pas. Alors ça, on verra au fil des années. Mais ceci dit, tout est relatif, parce que quand on regarde la taille des géants du web et tout le mal qu'ils ont fait en matière concurrentielle, on se dit que Bruxelles aurait peut-être dû aussi agir il y a 15 ans déjà. Et puis, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ces enquêtes, elles sont très longues à mener. Je parlais de 3 enquêtes ouvertes par Bruxelles récemment. Ces 3 enquêtes, elles vont prendre 12 mois à être réalisées et elles visent à vérifier les soupçons de la commission vis-à-vis de ces entreprises. Donc, d'ici à ce que les sanctions tombent, on a encore le temps de voir.
Mais c'est vrai que les enquêtes ont démarré contre plusieurs géants du net. C'est le début, vous le disiez, d'une procédure complexe. Et on peut dire que les avocats des grands groupes Internet sont bien préparés?
Oui, de toute façon, maintenant, depuis quelques années, ils ont l'habitude de lois bruxelloises qui sèment des embûches sur leur chemin, on va dire. C'est sûr qu'il faut s'attendre à des contentieux. Ça fait partie de la méthode habituelle des GAFA. De premières décisions ont d'ailleurs déjà été attaquées. Par exemple, Amazon et Zalando ont contesté leur classement en très grande plateforme par la Commission européenne et qu'ils a fait tomber dans le champ de ces lois européennes. Et l'Europe n'est pas naïve. Margrét Vestager, qui est aussi avec Thierry Breton à l'origine de ces lois, l'a dit il y a quelques jours lors d'une audition au Parlement européen. Elle s'attend à une bataille avec ce qu'elle appelle les contrôleurs d'accès pour mettre en œuvre le DMA, par exemple. Parce que, comme elle dit, il est très difficile d'imaginer que ces entreprises aussi énormes changent de modèle comme ça, comme par magie. Donc, ça sera aussi complexe parce que les lois ont les défauts habituels des textes européens. On ne sait pas, par exemple, quelle sera l'efficacité réelle des mesures qui sont prises, ni avec quelle rigueur les sanctions seront appliquées. Et puis surtout, il y a un problème de personnel du côté de la Commission européenne. Il faut beaucoup de ressources humaines pour traiter tous ces cas, bien plus que ce qu'a prévu la Commission jusqu'ici. Et des gens très compétents sur des sujets hyper techniques. Donc oui, ça s'annonce pas facile à mettre en œuvre tout ça.
Oui, justement, combien y a-t-il aujourd'hui de personnes qui seront chargées de faire appliquer cette DMA en Europe?
C'est difficile de donner un chiffre, parce que l'Europe va mobiliser ses équipes actuelles et elle n'a procédé dans le cadre des règlements DSA et DMA qu'à un renforcement de ses équipes, qui semble bien maigre par rapport aux équipes d'avocats des GAFA face à eux qui se sont multipliées ces dernières années.
Mes avocats vont vous flanquer une volée de bois vert dont vous vous souviendrez.
Fabienne, vous évoquez des sanctions. Quelles peuvent être ces sanctions si les grands groupes visés ne respectent pas les lois?
Alors, il y a différents types de sanctions. Il y a des sanctions financières d'abord. L'Europe peut imposer des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Donc, c'est beaucoup. Et ça peut même atteindre 20% en cas de récidive. Mais aussi, elle peut prendre ce qu'on appelle des mesures correctives. C'est-à-dire dire à tel ou tel acteur de changer son comportement. Et elle peut aussi imposer de céder des actifs ou même d'acquérir des entreprises. Donc, tout ça n'est pas anodin. Les mesures sont assez fortes.
Fabienne, les premiers effets de ces règlements DMA et DSA sont-ils déjà visibles pour les internautes?
Alors oui, dans le sens où les géants technologiques, pour éviter la sanction, ont déjà corrigé certaines de leurs pratiques juste avant l'entrée en vigueur des lois européennes, qu'ils connaissent très bien puisqu'ils ont été dans la négociation avec les législateurs européens pour les définir. Alors, par exemple, quand vous cherchez un billet d'avion sur le moteur de recherche Google, aujourd'hui, vous ne trouvez plus tout en haut des résultats de recherche le propre comparateur de prix de Google. Ou alors, autre exemple, Apple a lancé des nouvelles conditions commerciales pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques, qui exige notamment le téléchargement d'applications tierces sur ses iPhones en dehors de l'App Store. Bon, comme le dit le commissaire Thierry Breton, les choses ont plus bougé depuis une vingtaine de jours qu'au cours des 10 dernières années. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais en tout cas, c'est clair que la loi a déjà poussé les GAFA à agir. Il reste aujourd'hui à savoir si c'est vraiment dans le bon sens.
Autre changement visible depuis quelques semaines, il touche Google Maps. Lorsque vous recherchez une adresse sur Google, le plan s'affiche, mais l'image est statique, impossible de cliquer dessus. Il faut préciser la recherche avec le mot-clé Maps ou un autre service de cartographie pour avoir une vision cliquable du plan et trouver par exemple la boulangerie ouverte près de chez vous. Bref, il va y avoir de nouvelles habitudes à prendre.
Y a rien ici. On est paumé, y a rien.
Beaucoup de régulations au niveau européen depuis plusieurs années maintenant, et c'est sans doute pas fini. Le dernier enjeu en date pour l'Europe, c'est la régulation de l'intelligence artificielle.
Oui, alors ça, c'est encore un autre chantier gigantesque et autrement plus complexe, car c'est encore plus technique, l'IA. Et puis, on ne sait pas trop non plus où on va avec cette nouvelle technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de l'IA a déjà commencé à être régulée. Les systèmes d'IA générative intégrés à des services déjà couverts par les lois numériques actuelles, comme les chatbots au sein des moteurs de recherche, eux, ils sont complètement concernés par le règlement DMA. Mais bon, ça reste un gros challenge que la régulation à grande échelle de l'IA, d'autant plus que là encore, l'Europe est le premier continent au monde à réguler aussi fortement pour avoir donc une IA éthique et pour prévenir toute utilisation abusive.
Après d'intenses négociations entre les États membres et le Parlement européen, l'UE s'est accordée sur une législation inédite au niveau mondial pour réguler l'intelligence artificielle. Le texte doit à la fois favoriser l'innovation en Europe et limiter les possibles dérives de l'IA.
L'Europe est en retard sur de nombreux domaines du numérique. Pour preuve, il n'y a qu'une entreprise européenne dans la vingtaine ciblée par des enquêtes de l'UE, d'aucuns diraient mieux vaut tard que jamais, et dont la réflexion actuelle sur l'impact de l'IA, on sent bien que Bruxelles entend ne pas attendre des années pour réguler. Mais que feront les autres puissances économiques? Et cette régulation sera-t-elle efficace? Pour en parler, j'ai invité Julien Pillot à me rejoindre dans le studio de La Story. Il est enseignant-chercheur à INSEC School of Business. Bonjour Julien.
Bonjour Pierrick.
L'Europe durcit le ton face aux GAFAM. L'Europe est-elle le seul dans ce cas? Qu'en est-il aux États-Unis par exemple?
Alors effectivement, ça se durcit également aux États-Unis et ce, depuis la mise en place de l'administration Biden. Il y a eu des signaux avant-coureurs, notamment la nomination à la tête de la FTC, Federal Trade Commission, qui est l'une des deux grandes autorités de concurrence américaines, de Lina Khan, qui a fait sa thèse sur la façon de mieux réguler les grosses entreprises, et notamment les grosses entreprises du numérique. Et là, on voit qu'effectivement, les nombres de procédures aux États-Unis envers les GAFAM se multiplient. La dernière en date, c'est l'instruction à l'encontre d'Apple pour abus de position dominante, menée par qui ? Par la FTC.
Abus de position dominante, c'est aussi ce qui a valu à Apple cette amende d'1,8 milliard de la part de la Commission européenne. Ça portait sur le marché de la diffusion de musique en continu. Julien, face à ces groupes très puissants financièrement, la solution tapée au portefeuille est-elle efficace ?
Alors c'est efficace, mais modérément efficace, ce n'est pas suffisant. Parce que malgré tout, on parle de très très grosses sanctions. C'est des sanctions qui ont cumulé font plusieurs milliards, donc ce ne sont pas des petites sommes, y compris pour ces entreprises-là. Et d'ailleurs, si c'était un dollar pour elles, elles se dépêcheraient de les payer. Or, elles font tout ce qu'elles peuvent pour faire durer les procédures de façon à payer le plus tard possible, voire diminuer les sanctions. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, malgré tout. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une sanction, finalement, ça ne change pas la façon dont les entreprises se comportent sur le marché. Donc, il faut adjoindre à ces sanctions d'autres types de sanctions qui ne sont pas financières, mais qui sont d'ordre comportemental pour les enjoindre à ne plus se comporter de la même façon sur les marchés. Et c'est la seule manière, finalement, de résoudre les problèmes qui ont justifié le prononcé d'une sanction.
En Europe, est-ce que ce n'est pas une forme de protectionnisme aussi au nom de la sécurité des internautes ?
Alors, au nom de la sécurité des internautes, au nom de tout un tas de bonnes causes, on peut éventuellement faire passer tout un tas de projets, de règlements, de régulations. Seulement, voilà, pour être protectionniste, il faudrait qu'on ait des champions du numérique européen à protéger. Or, il en manque quand même pas mal. Et toujours est-il que tant et si bien que l'on mette en place une régulation, et aujourd'hui en Europe, on est plutôt les champions du monde du normatif sur le numérique avec le RGPD, avec le DSA, le DMA et maintenant l'IA Act pour l'intelligence artificielle. En fait, ça peut éventuellement empêcher nos concurrents américains et demain chinois de courir aussi vite que ce qu'ils pourraient courir. Mais ça ne nous fait pas nous courir plus vite. C'est-à-dire que nous, nos problématiques structurelles et notamment de concurrence entre certains États, la capacité à pouvoir travailler ensemble, à faire émerger les champions du numérique européen et évidemment d'avoir accès au capital venture de façon aussi facile et massive que nos concurrents américains, ces problèmes-là, ils demeurent malgré la régulation. Donc, ce sera clairement insuffisant.
Si je comprends bien, on les fait courir avec des boulets aux pieds, mais ils arrivent quand même à franchir la ligne d'arrivée bien avant nous. Ça veut dire que c'est déjà trop tard pour l'Europe ? On a régulé trop tard ?
On a régulé trop tard. Et en plus de ça, on a régulé de façon, à mon sens, insuffisante, en fait. Alors, trop tard, parce que finalement, nos arsenaux juridiques arrivent à un moment de l'histoire où les positions dominantes sont quand même bien assises et bien cristallisées. Et puis, parce que si on voulait vraiment remettre en cause par la réglementation ces positions dominantes qui sont bien assises par les champions, notamment américains du numérique, il aurait fallu avoir des textes qui les contraignent à changer leur business model. Or là, les textes, en l'occurrence, ne font pas cette démarche-là, n'ont pas cette volonté-là. Et évidemment, si on avait imaginé une régulation européenne qui fasse la promotion de modèles alternatifs, notamment au niveau de la sobriété numérique, pour ne citer que ça, peut-être que les avantages comparatifs des grands acteurs du numérique, qu'ils soient américains ou chinois, seraient tombés et seraient fait place nette pour que d'autres modèles économiques alternatifs, éventuellement portés par les entreprises européennes, émergent. Là, en l'occurrence, on a plutôt tendance à mettre en place une régulation tardive et qui, en plus de ça, cristallise des règles du jeu au niveau économique.
Et on voit qu'aux États-Unis aussi, les autorités sont en train de sévir. On en vient à se demander, finalement, si les Apple, les Google, toutes ces GAFA dont on parle maintenant depuis des années ne vont pas se retrouver, finalement, sur la voie de la scission. Est-ce que l'antitrust, finalement, ne va pas intervenir, là aussi, pour essayer de les rendre moins puissantes ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas comment l'avenir va s'écrire. Toujours est-il que le démantèlement, puisque c'est le sens de votre question, Pierrick, est quelque chose qui est possible sur le plan technique et juridique, que ce soit de notre côté de l'Atlantique ou de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est entre les mains du régulateur. Il n'en demeure pas moins que c'est une arme qui est extrêmement rare dans son utilisation. La dernière fois qu'on a démantelé des entreprises, c'est aux États-Unis, c'est 1982, c'est mon année de naissance, donc c'est pas super jeune, et c'était AT&T. Jusqu'à présent, toutes les grosses entreprises, y compris le Microsoft ultra dominant de la micro-informatique du début des années 2000, y a réchappé. Il n'en demeure pas moins que dans le discours, c'est en train quand même un petit peu de changer. On a vu de notre côté de l'Atlantique, Margaret Vestager, par exemple, laisser penser qu'un démantèlement de Google sur le marché de la publicité en ligne n'était pas complètement exclu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a pu entendre ça et là bruisser qu'un démantèlement d'Apple ou de Google encore n'était pas complètement à exclure non plus. Donc, wait and see, parce que derrière des décisions de démantèlement, il y a un dossier juridique à instruire, avec également des arguments économiques à brandir.
Ouais, ça c'est très compliqué, j'imagine, d'un point de vue juridique, mais le gagnant dans l'histoire, les gagnants, ce pourraient être les groupes chinois ?
Non, là je ne serais pas aussi définitif. Les groupes chinois ont des avantages en cela qu'ils peuvent grossir dans une économie qui est assez préservée de la concurrence extérieure du fait des mesures protectionnistes réelles, cette fois-ci, que les Chinois sont capables de mettre en place au niveau de leurs frontières. Donc effectivement, un TikTok aujourd'hui peut prendre des parts de marché en Occident parce que TikTok a pu grossir, devenir un acteur majeur sur le plan technologique, capitalistique et avec beaucoup de talent humain derrière, exonéré de concurrence. Et puis une fois qu'il arrive à une certaine masse critique, eh bien, il peut pénétrer les marchés occidentaux et faire jeu d'égal avec les plateformes de Meta, par exemple. Mais toujours est-il que derrière le droit de la concurrence, il y a aussi une dimension politique. Et cette dimension politique fait que je serais très étonné qu'on soit plus sévère avec les acteurs occidentaux qu'on ne le serait avec les acteurs chinois, que ce soit de notre côté de l'Atlantique ou de l'autre.
Merci Julien Pillot, chercheur associé au CNRS et enseignant-chercheur à l'INSEC Business School. Et merci Fabienne Schmitt, correspondante des Échos à Bruxelles. Vous pouvez retrouver les enquêtes, reportages et analyses de nos correspondants à Bruxelles sur leséchos.fr. Et si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site abonnement.leséchos.fr/lastory. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de ce podcast des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.